Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'épître de Paul à Tite au chapitre 2 et au verset 11 et 12. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Notre sujet, c'est « Dieu forme les croyants ». Et j'aimerais considérer ce passage glorieux, ces versets qui sont là devant nous, dans une étude unique. Et nous voyons ici, nous avons un aperçu merveilleux des responsabilités du croyant et comment Dieu forme les croyants. J'aimerais commencer avec un point assez rapide. Les deux apparitions. Vous avez ici les deux apparitions de Christ pour introduire au verset 11. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. C'est l'incarnation de Christ, la venue de notre Seigneur et Sauveur, sa vie sur cette terre, sa souffrance, sa mort pour expier les péchés à la croix du calvaire et sa résurrection. C'est la première venue de Christ qui a amené la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu était dans le monde avant la venue de Christ, dès le début du monde, dès le début de la Bible. Mais comment la rédemption allait être accomplie? Comment elle allait être accomplie? Et toute la lumière de l'Évangile, tout ceci vient avec Christ. Et en particulier, l'ouverture du salut à toutes les nations non-juives. Le salut a été donné aux non-juifs avant Christ. Mais les Juifs n'ont jamais prêché l'Évangile. Et les non-Juifs étaient exclus de l'Évangile du seul Dieu vivant, le seul vrai Dieu. Mais quand Christ est venu, tout a changé. La grâce de Dieu, la faveur qui n'est pas méritée de Dieu, qui amène le salut, a été manifestée à tous les hommes, les Juifs et les non-Juifs. La première venue de Christ. Puis il y a la deuxième venue de Christ au verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est là la deuxième venue de Christ, d'une manière évidente, qui met fin à ce monde et qui amène le jugement final et les choses dernières. C'est un passage qui parle des deux apparitions de Christ. Et dans un certain sens, il y a ce contraste entre les deux. Le deuxième point, quelle est la formation des croyants? C'est un texte mystérieux ici. En lisant au verset 11, « Car la grâce de Dieu, ceci c'est libre, c'est donné, la grâce et le salut qui est donné librement. Parce que nous n'avons aucun mérite en nous-mêmes, nous ne méritons rien, nous n'avons aucune capacité à plaire à Dieu. Nous sommes des pécheurs perdus, ainsi nous avons besoin du salut libre. » De la grâce, je souligne ceci, la grâce de Dieu, le salut libre de Dieu, a été manifesté à tous les hommes. Et ces paroles mystérieuses, elles nous enseignent. Et j'aimerais vous dire que ce terme, dans notre version, traduit par « enseigne », est le terme qui nous discipline, qui nous enseigne, qui nous forme. Ce n'est pas simplement l'enseignement, même si c'est une bonne traduction, mais en grec, c'est plus que ceci. En grec, c'est un terme qui vient du nom un garçon. Et l'enseignement d'un garçon ou la correction d'un garçon, non pas simplement la punition d'un petit garçon, mais l'enseignement d'un enfant. Paul utilise ce terme dans sa lettre aux Éphésiens pour nous enseigner, pour éduquer un enfant. Ce terme vient de l'éducation, l'enseignement d'un enfant. Ainsi, le jeune, un garçon ou une fille, est enseigné et reçoit différentes tâches, différents devoirs, différentes leçons de la part de ses parents. Et ils sont enseignés pour faire ces choses. Imaginez une famille autour d'une table et les parents enseignent leurs enfants à manger de la bonne manière, proprement et avec politesse. C'est là ce terme qui est utilisé ici, nous enseigner, nous former, comme un petit garçon qui est éduqué, littéralement en grec. C'est un mystère pour nous, si la grâce est libre, si le salut qui ne peut pas être mérité C'est le don gratuit de Dieu. Comment est-ce qu'il peut y avoir une discipline et un enseignement, une formation? Oui, c'est le cas. La grâce nous enseigne et c'est ainsi qu'elle le fait. Vous venez à Christ, vous le voyez, lui, dans votre esprit. Il souffre, il meurt à la croix du calvaire pour les pécheurs. Il prend la condamnation éternelle que nous méritons à notre place, de manière à ce qu'il puisse payer le prix pour que nous puissions être pardonnés librement. Et il a ôté tous nos péchés et il fait de nous ses enfants, les enfants de Dieu, par la grâce, le salut libre. Quand nous sommes sauvés, nous savons que nos vies sont transformées, nous venons à Christ. Nous sommes si émerveillés que ceci a un effet de formation en nous, d'éducation. J'ai été délivré du péché, je ne vais pas être rejeté par Dieu et condamné à cause de mes péchés. Ainsi, je dois vivre pour plaire à Dieu. Comment est-ce que je peux continuer à pécher? Le péché, à présent, n'est plus mon ami, mais mon ennemi. Je dois résister au péché, être contre le péché. Si Christ est allé si loin pour souffrir tant, pour mourir, pour me sauver, comment moi est-ce que je peux être indifférent? Je dois, avec son aide, de tous mes efforts et avec la prière, je dois essayer de vivre une vie juste, droite. Ainsi, la grâce, de cette manière-là, me forme pour plaire à Dieu. Parce que j'ai été racheté, transformé, et je suis plein de gratitude. J'ai un sens profond de tout ce que je lui dois. De nos jours, même parmi beaucoup de gens qui croient en la Bible, il y a une tendance à dire « Oh, si je suis sauvé, alors j'ai la liberté d'un chrétien, je ne suis plus condamné. Ainsi, je peux faire tout ce que je veux, je peux vivre comme je le veux. » Et ils ne sont pas formés du tout par la grâce à obéir à Dieu. Et si vous leur dites « Oui, mais un chrétien ne devrait pas faire une telle chose, un chrétien ne devrait pas aller dans un certain endroit, et le chrétien ne devrait pas avoir certaines habitudes », alors ils vous disent « Oh non, vous ne pouvez pas me donner toutes ces règles, toutes ces lois, parce que moi j'ai la grâce, j'ai le salut libre, et c'est du légalisme que d'avoir toutes ces lois », et ils ne comprennent pas. Non, le salut a été payé par Christ, nous ne pouvons pas payer le prix nous-mêmes. Mais étant sauvés, nous avons une obligation envers lui et nous avons un désir en nous de lui plaire. Ainsi, nous gardons ses lois, ce que Dieu requiert de nous, et nous sommes consciencieux. Et si nous ne le sommes pas, alors peut-être que nous ne sommes pas sauvés. C'est un signe de la grâce. Comment est-ce que je sais que je suis sauvé? J'ai été formé par cette expérience. Et à présent, je mets tous mes efforts contre le péché. Si Christ a fait tant pour me délivrer, alors je veux me détourner du péché et lui obéir. Car la grâce de Dieu, le salut libre, pour le salut de tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne pour nous former, pour nous transformer, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Au verset 12, il y a deux négatifs, trois positifs. En nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, c'est les deux choses négatives, et trois choses positives, à vivre dans la tempérance, dans la justice et dans la piété dans ce monde présent. Nous pourrions passer beaucoup de temps sur chacun de ces termes, mais j'aimerais brièvement considérer chacun de ces termes ce matin. Elle nous enseigne à renoncer. C'est être indifférent, mépriser. Mépriser, renoncer à l'impiété. Renoncer n'est pas suffisamment fort. Vous pouvez renoncer à quelque chose, mais est-ce que vous allez le rejeter entièrement de tout votre cœur? Vous devez rejeter certaines choses et dire non, ce n'est pas du légalisme. La grâce nous a enseigné et formé à dire non à ces choses que Dieu n'aime pas, ces choses que Dieu ne veut pas. Elle nous enseigne à renoncer, à rejeter, à dire non à l'impiété. C'est la première chose négative. Qu'est-ce que c'est que l'impiété ici? J'aimerais vous dire que ce n'est pas simplement un synonyme de l'injustice. Certaines personnes pensent que c'est simplement l'injustice. Non, ce n'est pas le cas. L'impiété est une traduction du grec qui signifie un manque de respect. Ceci parle de notre attitude vis-à-vis de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Le manque de respect. L'impiété, c'est un terme avec un sens particulier. C'est le manque de respect. Le grand problème dans le monde, c'est le manque de respect envers Dieu. Le grand problème, à certains moments de notre histoire, quand les choses même semblaient être très religieuses, c'était le manque de respect devant Dieu. Qu'est-ce que c'est que le manque de respect devant Dieu ? C'est ne pas fléchir le genou devant sa sainteté, sa merveille, sa bonté et ses lois. C'est prendre les choses à la légère, avoir une attitude légère et superficielle devant Dieu. Être léger dans la religion, être informel dans la religion, être léger, informel. La grâce nous enseigne à refuser ceci, comme la peste. Si vous considérez certaines grandes églises, les méga-church aux États-Unis, qui ont des milliers de personnes, c'est si léger, si superficiel. La louange, c'est comme un concert pop. Tout est pour le divertissement de ceux qui sont là pour le plaisir. Peut-être qu'il y a une certaine mesure de bonne doctrine qui est enseignée, mais tout est à la légère. C'est une église pour ceux qui sont légers, pour plaire aux gens, pour les gens qui ont une certaine religion, mais qui en renient la puissance. Ce n'est pas réellement la conversion et la consécration à Christ. Ils veulent une église où tout est superficiel, tout est de l'amusement et des choses à la légère. Évitez ceci comme la peste, dit notre passage. C'est exactement ce que l'apôtre Paul a à l'esprit, à renoncer à l'impiété, au manque de respect envers Dieu, à la légèreté, aux choses informelles, des choses qui sont uniquement pour moi, et nous avons un seul culte le dimanche, à moins qu'il y ait une fête dans l'église, où il y a toutes sortes d'événements. Et dans ce pays également, il y avait la fausse religion. Je ne vais pas aller dans les détails à présent, mais tout est inclus ici, dans ce passage. Et refusez ces choses dans votre vie chrétienne également. Sans vie de prière, sans sacrifice, sans rien de profond, sans service pour le Seigneur, sans consécration, rien de profond, uniquement en surface. Le manque de respect, c'est là ce que c'est que l'impiété, une religion qui manque de respect. La grâce nous enseigne à dire non au manque de respect et à la légèreté. Et ensuite, également aux convoitises mondaines ou charnelles. Vous savez ce que c'est que ceci, vivre pour l'argent, pour l'attention des autres, pour la célébrité, pour la richesse, en buvant, en mangeant, pour les plaisirs sensuels, en refusant à la fois l'impiété et les convoitises mondaines. Et à présent, les choses positives. Nous devrions vivre dans la tempérance. Ceci ne parle pas de l'alcool. C'est important. Mais dans ce terme, c'est avoir du bon sens dans notre esprit. Qu'est-ce que c'est que d'être une personne qui a du bon sens? C'est de se contrôler soi-même. C'est de contrôler votre vie par l'aide de Dieu. Ce n'est pas d'être une personne pleine d'excès qui chute dès qu'il y a un danger, dès qu'il y a une tentation. Une personne qui est complètement prise par les choses de ce monde, qui dépense trop pour la maison, pour la voiture, pour l'habillement. Être modeste, se contrôler soi-même. Certaines personnes, vous les admirez parce qu'ils se contrôlent eux-mêmes. La manière de penser, de prendre les décisions, ces gens sont modestes. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des habits de toile, non, mais se contrôler soi-même. C'est intéressant parce que certains ont parlé de prédicateurs et quel doit être leur salaire. Et s'ils doivent avoir 2 voitures ou 3 voitures, certains pasteurs sont très riches, non pas trop dans ce pays, mais aux États-Unis surtout. Et ils ont 3-4 maisons et ils sont très riches. Et je ne parle pas simplement des pasteurs hérétiques qui ont des avions privés et qui sont des évangélistes de la prospérité. Certains disent que non, ils ne devraient pas avoir trop d'argent. Et d'autres, ils disent « Oh, mais ils sont célèbres. » Il travaille dur. Est-ce qu'il devrait être riche ou pas? Que dit l'Écriture? Le bon sens, non pas emporté par les richesses, par une maison luxueuse, être un bon exemple en tant que berger pour le troupeau. Ceux à qui il prêche, tout est là, nous enseigne à dire non au manque de respect et aux convoitises mondaines pour que nous puissions vivre et à vivre dans la tempérance, en se contrôlant soi-même et en n'étant pas gouverné par des choses, par des biens. Dans la justice, ceci c'est garder la loi de Dieu envers les autres hommes. En aimant nos voisins, en faisant de bonnes œuvres, en gardant la deuxième table de la loi. Et dans la piété, c'est garder la première table de la loi. Ce n'est pas le même terme que la justice. C'est garder les lois envers Dieu, les quatre premiers commandements, dans ce monde présent. Dans ce monde présent, en ce présent siècle. Est-ce que ceci n'est pas plein de signification, ce présent siècle? Nous pourrions souligner ceci, ce monde présent qui passe, temporaire. Nous ne vivons pas pour ce monde. Ce monde va bientôt être amené à une fin. Ce monde présent, c'est un endroit de tentation, un endroit d'incrédulité, de péché. Et nous proclamons Christ. Ce monde présent est un monde qui est sous la malédiction. Nous ne sommes pas ici pour réformer ce monde. Nous faisons le bien, mais nous n'allons jamais réformer le monde. Parce que c'est un monde qui est condamné. Dans ce monde présent, ce présent siècle, ce monde présent temporaire qui passe et qui n'est pas notre demeure en tant que chrétien, nous disons non à certaines choses et nous recherchons le bon sens et la justice et la piété. Et au verset 13, en attendant, en se réjouissant dans l'espérance pour la venue de Christ, en s'attendant à la venue de Christ, c'est là la signification, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que veulent dire ces termes grandioses? La bienheureuse espérance, c'est l'espérance qui est béni, cet événement béni, plein de joie, qui va arriver. C'est ainsi que nous vivons, en s'attendant à quelque chose qui nous rend réellement heureux, et ce sera le jour le plus merveilleux de notre vie. Cette bienheureuse espérance et la manifestation glorieuse, ce sont des termes précieux, et j'aimerais les expliquer, chers amis. En attendant la bienheureuse espérance, cet événement que nous attendons avec joie est la manifestation glorieuse ou la manifestation de la gloire de notre Dieu en grec. Cela signifie la même chose, mais en grec, c'est la manifestation de la gloire quand Christ reviendra. Il y aura une apparence visible de sa gloire. Et pensons un peu à ceci pour un moment. Qu'est-ce que c'est que la gloire ? La gloire, c'est tous les attributs de Dieu, les attributs éternels de Dieu, sa puissance, sa connaissance, sa spiritualité, tous ces attributs. Est-ce que vous allez les voir quand Christ reviendra? Oui, dans une certaine mesure, vous allez les voir. Christ sera dévoilé quand il viendra dans le ciel. Et comment ceci se passera, nous ne pouvons pas l'imaginer, mais tout œil le verra, et il viendra sur les nuées des cieux. Il le dit dans sa parole. Et il apparaîtra. Ce terme, traduit par apparition, signifie littéralement resplendir. Sa gloire qui resplendit. Quand il y a une grande tempête qui arrive, même sans regarder par la fenêtre, il y a comme une menace dans la luminosité. Et vous vous dites, oh, il y a une grande tempête qui arrive. Quelle luminosité bizarre! Et nous comprenons ceci, et nous ressentons ceci. Si vous regardez par la fenêtre, oui, c'est encore beaucoup plus clair. Vous ne pouvez pas vous dire « Oh, cette couleur, cette luminosité !» C'est une couleur qui veut dire « Faites attention !» Ce n'est pas si évident, mais tout le monde comprend que cette luminosité signifie qu'il y a une grande tempête qui arrive. Et de même pour Christ, sa gloire qui resplendit. La manifestation de la gloire de Christ qui va d'une manière ou d'une autre communiquer la gloire et la grandeur de Christ. Vous allez réaliser sa lumière, sa majesté, sa pureté, mais il y a quelque chose qui va resplendir, sa grâce au-dessus de toute chose. Chers amis, la grâce de Christ, son amour, son pardon, lui qui est venu à la croix du calvaire pour souffrir, pour mourir, pour ceux sur qui il a mis son amour. La bonté si immense de Christ, son amour incomparable, tout ceci sera comme la luminosité de sa gloire. Nous ne pouvons pas expliquer ces choses, mais ce sera le cas, ce sera évident. Et au-dessus de tous les attributs de Dieu, celui qui sera le plus exprimé quand il reviendra, ce sera la grâce. Où est-ce que nous apprenons ceci? Ceci, c'est dans le chant des anges et dans son incarnation, ces grandes vérités. La gloire de Dieu est manifestée en particulier dans son plan de la rédemption, dans son amour de la rédemption. Ainsi, l'auteur du cantique dit « Dieu d'amour, de merveille, tous tes chemins, exprime tes attributs divins, mets ton pardon, ta grâce, au-dessus de toutes choses, resplendissent au-dessus de tes merveilles. Et ceci sera évident, la miséricorde, la grâce de Dieu, quand Jésus-Christ apparaîtra. En attendant, en se réjouissant avec espérance, en attendant la bienheureuse espérance, cette joie toute particulière et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. De notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Cette phrase a amené des gens durant l'histoire à dire qu'il y a deux membres de la Trinité qui apparaissent ici. Il y a le grand Dieu et en plus du grand Dieu, il y a notre Sauveur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la bonne manière de considérer ce texte. Et peut-être que notre traduction nous a un peu mis sur le mauvais chemin. Parce que nous pourrions ainsi lire ce texte de la mauvaise manière. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ce verset se réfère uniquement à une personne. En 1778, un grand homme qui s'appelait Grenville Sharp a étudié dans les détails chaque occurrence dans le Nouveau Testament grec où ceci est utilisé, un article, le, qui introduit deux noms et comment ces deux noms sont coordonnés. Et toujours ces deux noms se réfèrent à la même personne. Grenville Sharp était bien connu, il est l'auteur du premier tract en faveur de l'abolition de l'esclavage, un homme évangélique chrétien. Et il a combattu toute sa vie pour l'abolition de l'esclavage. Il était un chrétien évangélique, mais il connaissait bien également la grammaire grecque et il a étudié le grec. Et selon ce principe de grammaire de Grenville Sharp, nous savons que c'est la même personne. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ou de notre grand Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ, qui se réfère à Christ uniquement. Je suis désolée pour cette parenthèse. En attendant la bienheureuse espérance, cet événement glorieux, l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Notre temps est passé, chers amis, presque passé, au verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous. Quelle parole que celle-ci, qui s'est donné lui-même pour nous. Il s'est donné lui-même. Il a donné sa joie dans la gloire céleste pour venir dans ce monde, Il a donné son temps, il a donné sa souffrance, il s'est donné lui-même, il a été transformé éternellement, il était Dieu éternel égal au Père. Et il a pris sur lui-même une personnalité humaine, un corps qu'il portera dans l'avenir éternel. Il s'est donné lui-même pour nous sauver, pour nous tous ceux qui sont sauvés. Et pour chacun également, il s'est donné pour vous, afin de nous racheter de toute iniquité à présent, ici-bas, et de nous purifier, et de se former un peuple particulier qui lui appartient, un peuple unique pour lui-même. C'est là la signification de ce terme particulier, dans le sens ancien, un peuple mis à part, sa propriété, un peuple unique, zélé pour les bonnes œuvres, zélé. Zélé, c'est chaud pour les bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres? L'obéissance à Dieu, des œuvres de bonté, prêcher l'Évangile, enseigner les enfants à l'école du dimanche, visiter la communauté, faire la vaisselle pour aider les autres, des actes de bonté, de générosité, d'aide, de toutes sortes, des choses spirituelles et non spirituel, zélé pour les bonnes œuvres. De nous racheter de toute iniquité. Ce terme « iniquité », c'est être sans loi. Il y a beaucoup d'iniquité, de manque de loi parmi les chrétiens. Chapitre 3, verset 1, « Avertis-les d'être soumis aux princes et aux magistrats, de leur obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. » C'est l'un des textes comme Romains 13 qui nous dit que, en tant que chrétiens, nous sommes sous l'autorité civile. L'autorité civile, c'est l'autorité de Dieu pour gouverner le monde et nous devons y obéir. Si nous avons des instructions, bonnes ou non, je ne parle pas de choses qui sont contre la parole de Dieu, nous n'obéissons pas au gouvernement s'il nous demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Mais en tout autre aspect, nous devons obéir au gouvernement parce que c'est être sans loi que de ne pas obéir. Et pendant le confinement, il y avait certains chrétiens, une minorité heureusement, mais certains chrétiens dans tout le monde qui disaient « Oh non, je ne veux pas porter de masque, je ne veux pas respecter la distanciation sociale, je ne veux pas écouter tout ceci et nous n'allons pas appliquer ces lois dans nos cultes. » De nous racheter de toute iniquité. Mais nous obéissons aux lois. Ces choses sont importantes. Nous avons parlé rapidement de ces choses pendant notre réunion de prière lundi dernier, ce devoir de prendre soin des autres, plein d'amour, les 10 commandements donnés par Moïse et l'explication, ces vertus opposées. Nous gardons les 10 commandements, même les lois d'Israël, les lois juives. Nous n'obéissons pas aux lois juives dans le détail, mais dans leurs principes. Souvenez-vous, je parlais de Deutéronome 22, verset 8, la loi de la bataille. Si vous construisiez une nouvelle maison qui avait un toit plat, vous deviez construire un balcon, une balustrade autour du toit. Si vous ne faisiez pas ceci et que quelqu'un tombait du toit, et c'est là la partie importante, alors vous êtes coupable. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, l'ordre de l'Ancien Testament, vous êtes traité comme si vous aviez tué cette personne, parce que vous étiez complètement indifférent et vous n'avez pas obéi à ce devoir de prendre soin des autres et vous n'avez pas construit cette balustrade sur votre toit. C'est la loi de Dieu. Ceci ne s'applique pas littéralement pour nous aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de construire une balustrade littéralement, mais nous devons observer le principe. Nous devons prendre soin l'un de l'autre. Ainsi, oui, quand le confinement est arrivé, le gouvernement a dit que nous devions respecter la distanciation sociale. C'est là ce que nous avons fait. Le gouvernement dit « Faites ceci, faites cela, nous sommes chrétiens, nous faisons de notre mieux, nous ne sommes pas sans loi » en disant « Non, je ne ferai pas ceci, je ne vais pas obéir. » Je suis désolée, c'est une parenthèse, mais ceci s'applique pour toute chose. Afin de nous racheter de toute iniquité, être sans loi, en tout aspect. Et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Est-ce que vous pensez que j'ai peut-être été un peu trop sévère aujourd'hui? J'aimerais lire le dernier verset pour conclure, au verset 15. Enseigne ces choses. C'est là un commandement pour moi. Enseigne ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité. Ainsi, nous devons dire ces choses parce que c'est la parole de Dieu. Je pense que ce passage est remarquable et merveilleux. Il commence avec ce qui semble être un mystère, la grâce qui nous enseigne, qui nous forme, qui nous discipline. N'oublions pas ceci, chers amis. Notre aspiration, c'est de plaire au Seigneur.